Merci Vincent, très heureux d'être avec vous. Le RESAM, Réseau de soutien au ministère, une commission du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, dont votre église fait partie, puisque l'association baptiste en fait partie. Voilà, je découvre votre belle église, je découvre votre belle ville de Toulouse pour la toute première fois, et je suis ravi. Donc, merci pour votre accueil et votre invitation. Et je vous remercie de cette occasion d'être avec vous, qui témoigne aussi de l'importance que vous attachez à vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le thème de ce week-end de convention missionnaire et notre sujet de ce matin sont des indicateurs du fait que vous attachez de l'importance non seulement à ce que l'envoyé en mission fait, mais à comment il va. Rares sont les missionnaires qui entendent quelqu'un leur dire « Comment vas-tu vraiment ?» Et encore plus rares sont les personnes qui vont prendre le temps d'écouter la réponse et de la traiter avec bienveillance et confidentialité. Pourtant, depuis quand n'avons-nous pas besoin des autres ? Depuis quand le serviteur n'est-il pas humain ? Avec ses craintes et ses fatigues, parfois son ras-le-bol, parfois ses traumatismes. Pourquoi certains pratiquent-ils le ministère comme si c'était un appel à l'autosuffisance, à devoir se débrouiller tout seul ? Pourquoi tant de solitude, enfermée dans un rôle qui isole ? C'est ce que je remarque dans ma pratique d'accompagnement auprès des pasteurs et des missionnaires. Nous en accueillons dans notre centre à peu près 400 par an, avec leur famille, pour des temps de repos, comme Vincent l'a dit, mais aussi parfois pour pouvoir bénéficier d'une écoute, d'une oreille attentive. Parfois pour les aider à se relever, à reprendre le chemin du service et à repartir avec plus de force. Cette solitude, cet enfermement dans un rôle parfois, c'est un problème pour l'envoyé et pour sa famille. Parce que la solitude dans le ministère ouvre la porte au dérapage, aux excès de vitesse, dans la cadence qu'on s'impose, et à la fatigue que l'on cache, parce qu'on pense qu'il faut toujours être au top de sa forme. Un pasteur m'a dit récemment, si je veux que les gens sautent jusqu'ici, eh ben moi je dois sauter jusqu'ici. Alors je salue tous les efforts que vous déployez pour prendre soin, pour mieux prendre soin de vos envoyés, mieux les accompagner, mieux les encourager. Nous avons tous besoin d'encouragement. Cependant, chers amis, ce matin, je viens devant vous avec un problème. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à le résoudre. Mais pour le résoudre, il faut le comprendre. Le problème est le suivant. Comment se fait-il que dans le monde de la mission, nous avons parfois un peu trop tendance à mettre les projets avant les personnes, à mettre l'œuvre et l'importance de l'œuvre avant l'ouvrier, à mettre notre corps, qui est notre outil de travail, pour servir Dieu, à mettre notre santé, parfois nos relations familiales, en danger par souci d'être performant dans le service. Par souci peut-être de plaire aux autres, de ne pas les décevoir, toutes les personnes que nous voulons servir et aider, on ne veut pas les décevoir. Et par souci de vouloir tout faire, de se plier en quatre pour répondre aux multiples attentes, besoins et demandes. Cette manière d'agir est-elle biblique ? Ne serait-elle pas plutôt culturelle ? Parce que la conséquence, c'est que le taux d'épuisement parmi les envoyés, eh bien, les taux d'épuisement, ils sont alarmants. Alors moi, je les vois tous les jours, parce que je suis dans ce travail d'accompagnement des personnes qui parfois sont en panne. Mais les taux sont alarmants, tout comme dans notre société. Surtout parmi ceux qui sont dans des métiers du soin. Quel que soit ce soin. Et nos envoyés sont dans un métier du soin. Le soin de l'âme, le soin apporté aux personnes défavorisées, aux personnes en difficulté, aux victimes d'injustice, victimes de trafic humain, etc., etc. Presque la moitié des demandes d'accompagnement que nous recevons dans notre centre d'accueil à Entrepierre sont pour des situations de burn-out ministériel. Si la personne n'arrive pas à se relever, cela représente une perte énorme pour l'œuvre de Dieu. J'ai entendu certains chrétiens dire « On se reposera quand on sera là-haut. » Mais ce n'est pas là-haut qu'on en aura besoin. C'est ici et maintenant. J'ai même entendu certaines personnes dire « Le diable, il prend jamais de vacances. » Sous-entendu, il faut être toujours à l'œuvre. Vous savez comment répondre à ça ? Moi, je ne veux pas être comme le diable. Je prends mes vacances parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ces temps de ressourcement. Sinon, je ne peux pas tenir dans la durée. Certains abîment leur santé par la charge de travail qu'ils s'imposent eux-mêmes ou à cause d'un modèle de service qui met sur leurs épaules des fardeaux pesants composés d'attentes énormes. Ce problème n'est-il pas plutôt le reflet de nos valeurs culturelles liées au rapport que nous avons au travail, à la production, à la productivité, aux performances et aux résultats? Il faut qu'on soit conscient de cela, de l'influence de notre culture sur notre fonctionnement. Je rencontre énormément de serviteurs fatigués mentalement, moralement, émotionnellement et spirituellement. Voici ce qu'un missionnaire m'a dit récemment. Dans le projet pour lequel je travaille, c'est la croissance et le développement à tout prix. Les projets et les résultats avant tout. On veut des résultats encourageants que l'on pourra mettre dans nos lettres de nouvelles, que vous allez lire. On veut que nos donateurs soient contents. Et on fonctionne tout le temps dans l'urgence. Les gens sont placés en fonction des besoins des projets. Car ce qui compte avant tout, c'est le bien collectif. Les objectifs de l'œuvre, son témoignage et son développement. J'ai le sentiment, dit ce missionnaire, de ne jamais en faire assez. Et je me sens piégé, car j'ose rien dire par peur d'être taxé de mauvais missionnaire. Vous voyez le problème ? Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est quand que ce bonhomme va ouvrir la parole de Dieu ? Nous y sommes. Il y a une parole de Jésus qui remet les pendules à l'heure. Lisons Matthieu 11, les versets 28 à 30. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir. Si vous avez votre portable, je vous invite à retrouver votre Bible qui est dessus. Matthieu 11, 28 à 30. C'est une parole bien connue, mais peut-être pas toujours bien comprise. Voici ce que dit Jésus. Voici ce que dit Jésus à ses disciples, aux personnes qui veulent le suivre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Comment entendons-nous ces paroles ? Comment les accueillons-nous ? Quel décalage voyons-nous entre ce que nous vivons et ce que Jésus nous invite à vivre ? Un joug bienfaisant et un fardeau léger. Paradoxal, non ? Depuis quand un fardeau est-il léger ? Je ne me suis jamais entendu dire à un ami « Tu peux juste m'aider à porter ce fardeau léger ?» Un fardeau léger ? J'ai une question pour vous ce matin. Avec quel poids sur vos épaules êtes-vous venu ici ce matin ? Entre le jour où vous vous étiez engagé à suivre Jésus, si c'est le cas pour vous, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu pesant ? Sous quel joug est-ce que tu traces ton sillon ? Le joug des performances ? Nous sommes nombreux à entendre les autres nous dire « Tu dois faire davantage. » Souvent, nous nous le disons à nous-mêmes. Parfois, nous pensons entendre Dieu nous le dire. Alors que Jésus nous dit « Mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Que veut dire Jésus ? Nous savons que la voie du salut est ouverte, simple et accessible. Nous n'avons pas à l'obtenir ou à le gagner par nos efforts. Nous l'avons par l'effort de Jésus à la croix. Il a fait à notre place ce qui serait beaucoup trop lourd et pesant, voire impossible, si nous devions le faire nous-mêmes. « Je l'ai fait à ta place », nous dit Jésus. Maintenant, repose-toi sur moi. Ok, nous avons donc compris le salut par la grâce. Mais du coup, qu'en est-il de notre service pour lui ? Si le salut est accessible, doux et léger, car Jésus a tout accompli à la croix, notre vie de disciple et de serviteur n'en devrait-elle pas être autant ? Est-ce que nous ne glissons pas, parfois subtilement, vers un schéma et un fonctionnement selon lequel le salut est librement offert, mais une fois que tu es sauvé, tu dois bosser pour le Seigneur ? Et toute notion de repos disparaît. C'est par la sueur de ton front, en donnant sans compter, que tu vas faire ce qui lui est agréable. Gare à toi si tu n'es pas performant. Gare à toi si ton église ou ton projet ne fait pas du chiffre. Si tu n'es pas en train de mener pour Dieu 36 000 choses à la fois. On se met un joug ou on se laisse mettre un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Quand je dis oui à tout ce qu'on me demande de faire, à toutes les sollicitations du ministère, en essayant de répondre à tous les besoins des gens, et en me gardant de ne louper aucune opportunité de servir, aider, impulser, proposer, faire avancer. Je suis sous quel joug ? Le joug de l'image que je veux donner, du missionnaire consacré, dévoué, toujours disponible ? Ah, lui, c'est vraiment un bon missionnaire. Hein. Incroyable. toujours disponible. On peut faire appel à lui ou à elle n'importe quand, toujours prêt à mettre la main à la pâte. La mission en a vraiment pour son argent avec cette personne-là. Waouh, c'est génial. Quel est le prix ? Quelqu'un va payer le prix. Soit le missionnaire lui-même dans sa santé, soit dans sa relation de famille ou dans son couple. C'est peut-être le joug des performances et des résultats visibles qui vont satisfaire mon besoin de paraître, compenser ma peur de l'échec et nourrir mon ego. C'est peut-être ce joug-là que je porte. Ou alors c'est peut-être le joug de celui qui se croit indispensable. Le joug du sauveteur. Ou bien le joug de mon besoin de reconnaissance. De mon besoin d'exister et d'être approuvé dans le regard de l'autre. Ah, Jonathan, c'est bien ce que tu fais. Qu'est-ce que ça me fait du bien ? C'est gratifiant ça. Ah, je veux l'entendre encore. J'en ai besoin pour exister. Pour savoir qui je suis. Et je me construis dans le regard de l'autre. Pas dans le regard de Jésus. Et là, je me trompe. Peut-être c'est le joug de la culpabilité qui m'empêche d'être dans le repos. Qui me pousse à toujours faire plus. Parce qu'il y aurait toujours plus à faire. Ça, c'est sûr. Peut-être c'est le joug de l'urgence qui m'emprisonne dans l'idée que plus je fais, plus je suis efficace. Et qu'il ne faut surtout pas perdre de temps. Car la moisson est grande, les besoins sont énormes, le temps est court, la vie est courte, et Dieu ne nous a pas placés sur terre pour nous reposer. Il faut bosser. Et je trouve que chez les missionnaires, peut-être le joug, et il est déjà lié à tous les autres que j'ai dit, et je l'ai peut-être déjà dit, mais j'aimerais le souligner, ce joug qui est tellement présent parmi les envoyés, et c'est peut-être le cas pour vous aussi ce matin, tout simplement le joug de vouloir plaire aux autres. Et du coup, de ne jamais dire non. De ne pas poser de limites. Alors, je reviens à ma question. Pour toi, ce matin, quel est le joug que tu portes ? Il y en a peut-être plusieurs. Tu les cumules sur tes épaules. Alors que Jésus t'invite à n'en prendre qu'un. Le sien. Je vous partage le témoignage d'un homme qui est missionnaire et auteur. Voici ce qu'il dit. J'ai appris, il y a des années, que je devais dire non à la plupart des choses qu'on me demandait de faire. Afin d'être en mesure de dire oui aux quelques missions que Dieu voulait me confier. Jésus nous appelle à porter notre croix. Mais paradoxalement, il nous promet un fardeau léger et le repos de notre âme. Alors, si notre fardeau est lourd et que nous ne fonctionnons pas dans le repos, mais sous la contrainte, le devoir et l'obligation, c'est que nous nous sommes trompés ou que nous nous sommes laissés piéger. L'auteur continue. Beaucoup de gens pensent que Dieu leur dit « Tu dois faire davantage, tu dois travailler mieux ». Mais ils ne l'entendent pas leur dire « Je l'ai fait à ta place. Tu n'as rien à prouver. Tu es mon co-ouvrier et nous sommes une équipe. Toi et moi. Et c'est moi qui mène la danse. Maintenant, repose-toi, car c'est moi qui porte la charge. C'est moi qui prends le poids. Repose-toi sur moi. » Fin de citation. Combien de serviteurs se sont épuisés à la tâche en croyant que tout dépendait de leurs efforts ? Combien de personnages bibliques ont fait la même chose ? Moïse. qui s'épuise en pensant qu'il lui incombe de régler à lui tout seul toutes les affaires du peuple. Élie, qui arrive au bout du rouleau parce qu'il se laisse envahir par la peur, qui lui fait perdre sa vision de la souveraineté de Dieu. Jérémie, qui veut démissionner en demandant que Dieu lui reprenne la vie parce qu'il ne supporte plus de ne pas être écouté par le peuple, comme s'il était seul responsable de la réussite de sa mission. Dans chacun des cas, c'est une vision altérée de Dieu qui contribue à l'épuisement du serviteur. Chacun, à sa manière, porte un joug que Dieu ne lui demande pas de porter. Dieu n'a jamais dit à Moïse « Tu dois te débrouiller seul et avoir la réponse à tous les problèmes. » Dieu n'a jamais dit à Élie « Tu dois sauver ta peau car tu ne pourras plus compter sur moi. Les prophètes de Baal, c'était une chose, mais Jézabel, elle est trop forte, tu es fichu. » Dieu n'a jamais dit à Jérémie « Tu es responsable du résultat de tes proclamations et de tes avertissements. Si le peuple ne t'écoute pas et que les Babyloniens viennent, c'est de ta faute. T'as pas fait ton travail. » Alors que nous savons que Jérémie est fidèle. Fidèle au message que Dieu lui a donné de proclamer. Le résultat ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors avant de conclure, voici une question. Une deuxième question. Première question, c'était avec quel joug est-ce que tu viens ce matin ? Deuxième question pour toi, quel est le joug que Jésus te propose ce matin ? Qui est à côté de toi sous cet attelage ? Tu sais ce que c'est un joug ? Hein ? C'est ce qui fait avancer les animaux dans le champ pour labourer, pour que les animaux avancent au même rythme et qu'ils aillent dans le même sens. S'ils ne sont pas attelés l'un à l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Ça part dans tous les sens et ça ne va pas au même rythme. Tu as ce joug que Jésus t'invite à porter. Qui est à côté de toi ? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui marche à tes côtés. Mais est-ce que c'est Jésus ? Ou bien toutes ces voix qui te tirent et te poussent vers le surfonctionnement ? Ce que tu fais n'est pas assez. Il faut être plus performant. La croissance du projet, c'est ta responsabilité. Tu dois semer, arroser et faire croître. Si c'est Jésus qui marche à tes côtés, son joug te permet de marcher à son rythme. Et un rythme doux et léger, reposant et ressourçant. Pas un sprint épuisant. Oui, le ministère comporte de nombreux défis. Nous en avons parlé ce week-end. Des moments de souffrance et de découragement. C'est pourquoi ce joug te permet de marcher dans le même sens que lui, de marcher droit sans dévier de ta course, en laissant les résultats entre ses mains. Alors ta course, c'est quoi ? Ta course, c'est de pratiquer les œuvres bonnes qu'il a réellement préparées pour toi. Là où il t'a placé, fleurir là où tu es planté, avec les talents, les forces et la disponibilité qui sont les tiennes. Mais aussi avec les limites qui sont les tiennes. Apprendre à les accueillir, les apprivoiser et les respecter. Et les faire respecter par les autres. Cela soulève peut-être la question, qu'est-ce que Dieu nous demande réellement de faire ? Contrairement à toutes les choses que nous pensons que Dieu nous demande de faire. Si Éphésiens 2:10 déclare que nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, eh bien nous devons les discerner avec beaucoup de soin, afin de pratiquer celles qui sont réellement pour nous. Je ne veux rater aucune œuvre préparée d'avance. Mais tout ce qui ne l'est pas, je ne veux pas le faire. Alors, face à chaque demande, chaque besoin, chaque opportunité de service, il me semble qu'une prière s'impose. Seigneur, est-ce que cette tâche est préparée par toi et pour moi? Peut-être qu'elle est préparée par toi, mais elle n'est pas pour moi, elle est pour quelqu'un d'autre. Et si je le fais à sa place, c'est du vol. Je prive l'autre de faire ce que Dieu a préparé pour lui. Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre que le programme que Jésus a prévu pour moi est léger et bienfaisant? Je crois que c'est la grâce. Cette dynamique de la grâce qu'il faut bien comprendre et qu'il faut appliquer non seulement à mon salut, mais aussi à mon service. Cette grâce m'invite à entrer dans la liberté de ne rien avoir à prouver. Quelle liberté ! Je pense que c'est une des plus grandes libertés que nous pouvons avoir. La liberté de ne rien avoir à prouver. Est-ce que je vis dans cette liberté ? Est-ce que je me l'accorde ? Parce que Dieu me l'accorde, mais est-ce que moi je me l'accorde ? Cette même grâce me fait comprendre que le soin du serviteur, le soin que le serviteur s'accorde à lui-même, le soin de soi, est non seulement légitime, mais absolument nécessaire pour pouvoir tenir la distance et servir dans la durée. Il ne s'agit pas d'un acte égoïste, chers amis, mais d'un acte de bonne gestion de soi-même. Il s'agit de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. C'est comme quand vous êtes dans l'avion. Je l'ai dit hier, mais je le répète ce matin, puisque nous sommes à Toulouse, capitale de l'aéronautique. Vous avez remarqué, dans l'avion, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les consignes de sécurité, on ne vous dit pas que vous allez d'abord aider les autres à mettre leur masque à oxygène. On vous dit quelque chose de très égoïste. Mettez votre masque à vous d'abord. Et ensuite, aidez les autres, s'il le faut. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. C'est tout simple finalement, mais combien de fois faisons-nous le contraire? Et on se retrouve comme Moïse, comme Élie, comme Jérémie, le réservoir à sec, plus de joie, plus de motivation et à bout de force. Nous sommes appelés à prendre soin des autres, à répondre à leurs besoins légitimes, encore faut-il les discerner, et c'est très bien, mais pas quand cela se fait au détriment de notre santé spirituelle, émotionnelle ou physique, ou bien au détriment de la santé de notre couple ou de notre vie de famille. Alors pour conclure, je vous invite à réfléchir à une dernière question pour vous, que vous pouvez emporter avec vous ce matin. Elle se décline en trois parties. De quel joug, peut-être au pluriel, Jésus m'invite-t-il à me débarrasser? Quelle croyance sur moi-même, sur le service, sur Dieu, se cache derrière ces jougs? Et troisième question, comment s'en défaire? Comment se défaire des croyances qui alimentent le fonctionnement qui m'épuise? Je vais les relire et je vais vous laisser quelques instants pour y réfléchir, puis j'aimerais prier. De quel joug, peut-être au pluriel, Jésus m'invite-t-il à me débarrasser? Quelle croyance de base sur moi-même, sur le service, sur Dieu, se cachent derrière ces jougs, les nourrissent, les alimentent. Comment me défaire de ces croyances-là? Pour, bien sûr, adopter la vérité, les justes croyances que Jésus m'invite, avec lesquelles Jésus m'invite à fonctionner. Quelques instants de silence, chacun peut réfléchir pour lui-même, pour son fonctionnement, pour son service pour Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug, il est doux. Et mon fardeau, il est léger. Seigneur, tu connais toutes choses. Rien ne t'est caché. Et tu sais ce que j'ai besoin de déposer. Ce joug qui alourdit ma vie et mon service. Et qui ne vient pas de toi. Mais de mes exigences et des exigences des autres. Aide-moi à le voir pour moi-même. Je le vois chez les autres qui m'entourent et qui surfonctionnent, mais j'ai besoin de recevoir de ta part ce repos. Je veux adopter une posture de repos, ton repos, que tu me donnes dans ta bienveillance et ta générosité. Merci pour ta grâce qui me libère du besoin de prouver quoi que ce soit. Qui me libère aussi du besoin de me charger de problèmes qui ne sont pas à moi de régler. J'ai rogné mes ailes, Seigneur, avec le joug que je porte. Libère mes épaules. Redonne-moi des ailes pour ta seule gloire. Amen.